Et la fois, c'était jeudi dernier ou lundi?
Ce qu'on a fait sur Hanouka.
Ah, ok. Merci, Rav.
Je sais pas, j'ai appelé pas mal de monde, mais je vois qu'il n'y a pas. Non, si, il y en a six là-bas. Bon, possible que les gens ils font Hanouka chez eux.
C'était donc jeudi dernier parce que lundi on a fait Vaïechev. On s'est retrouvé.
T'es sûr?
Voilà. On a donc, je résume quand même un petit peu. La raison pour laquelle je vous ai parlé de Hanouka de cette manière-là, parce que il y a déjà beaucoup de cours de Hanouka. D'après ce que Chaim Meir m'a dit, il y en a beaucoup sur le site. Mais je crois que de ce sujet-là, on n'en avait pas vraiment beaucoup parlé, en tout cas. C'est cette fameuse machloket sur après Hanouka. Quand ce qui se passe après Hanouka, vous voyez la situation, elle est très facile à comprendre. Comme on dit dans le Alanissim, c'est le Meatim qui ont gagné contre le Rabim. C'est-à-dire, il y a une poignée de gens qui ont fait la guerre contre la totalité. Il y a une espèce de guerre civile. Et puis, il y a la famille du Kohen Gadol, avec quelques personnes qui se sont associées à eux, qui ont fait la guerre. Et ils ont gagné la guerre. Mais tout le monde était, tout l'establishment, tout le monde était acquis complètement aux idées grecques. Le Beth Amikdash, les Grecs ne l'ont pas détruit. Par contre, ils l'ont transformé en un temple grec. C'est-à-dire, ils ont fait des sacrifices de porcs et ils ont impurifié tout ce qu'ils pouvaient impurifier. Les Kohanim, ils passaient directement du stade. Ils allaient courir tout nus, etc. Et ils venaient, ensuite ils faisaient la Avoda dans le Beth Amikdash. Donc le Beth Amikdash, il a fallu le nettoyer, le purifier. Bon, alors, évidemment, lors de la purification, on s'est aperçu que toute l'huile qui est nécessaire pour allumer la menorah avait été impurifiée. On a recherché, on a fini par trouver une fiole, c'est-à-dire la quantité d'huile qu'il faut mettre dans les sept branches de la menorah pour qu'elle brûle. Vous savez, tous les soirs, le Kohen Gadol nettoyait la menorah et il mettait de nouvelle huile et de nouvelles mèches et il l'allumait, cette menorah qui brûlait jusqu'au matin. Avec toujours, dans le premier Beth Amikdash, il y avait un nez que le nerf maravi, celui du centre, il brûlait sans arrêt. On lui mettait la même quantité de combustible, mais il brûlait beaucoup plus longtemps que les autres. C'était le nez pour montrer qu'il y a la présence d'Hachem dans le Beth Amikdash. Mais on a finalement, la halakha était, enfin, elle est toujours, que quand le clan d'Israël il est majoritairement impur, ce qu'étaient tous les gens, puisque tout le monde avait été impurifié et tout, eh bien, on peut apporter les korbanot dans la Touma. Et on aurait pu allumer avec de l'huile normale, de l'huile d'olive, qui ne porterait pas le sceau qui garantissait la pureté de l'huile d'olive, le sceau du Kohen Gadol. Mais, bon, on n'en a pas eu besoin parce que quand on a allumé le premier jour, ça a continué de brûler pour les 8 jours. Bon, ça c'est, on a nettoyé le Beth Amikdash, on a essayé de recommencer les choses. Et après, il fallait régler les problèmes politiques. Ils ont fait une guerre et il fallait nommer un roi. Alors, comme vous savez, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de. Qui est-ce qu'on allait nommer? Les gens qui étaient acquis aux idées grecques, on ne pouvait pas nommer ces gens-là rois. Alors, ils se sont nommés eux-mêmes rois. Ce faisant, ils étaient en contradiction avec une halakha qui dit qu'il y a séparation des pouvoirs et la royauté, elle appartient à la tribu de Yehuda c'est-à-dire aux descendants de David Ameler. Et la Kehuna, elle appartient aux Kohanim. Et les Kohanim ne sont, peuvent pas être rois comme les rois ne peuvent pas être Kohanim. Mais eux, ils étaient Kohanim, bien sûr. C'est la famille du Kohen Gadol. Et ils ont pris la royauté. Alors le Ramban dit que c'est un scandale et que malheureusement, tous les malheurs qui s'en sont suivis sont causés par cette transgression. Et le Rambam, il écrit que après la victoire, Emidou Melech Minakoanim,
pomme.
Ils ont installé un roi, Min HaKohanim, donc des Kohanim, issus des Kohanim, et ainsi la royauté est redevenue une royauté d'Israël sur Israël, et pas une royauté des Grecs ou des étrangers sur Israël, pendant 200 ans. Jusqu'au Churban HaBayit, ça veut dire. Et le Rambam ne fait pas mention du tout d'une critique, au contraire, il a l'air d'être très content de mettre l'accent sur le côté extraordinaire. La royauté est redevenue la royauté juive sur Israël. Donc, comme toujours, le problème c'est qu'est-ce qu'il nous dit là, le Rambam ? Comment il peut être tellement content de quelque chose qui n'est pas conforme à la halakha ? Bon, alors je ne vais pas tout vous raconter. Ce qui est important à savoir, c'est la fameuse question du prix de Tzadik. C'est une question sur l'Agmara. L'Agmara, quand elle parle de la fête de Hanouka, enfin de l'instauration de Hanouka, elle ne dit que quelques lignes dans Maseret Shabbat. Parce qu'elle en parle dans le cadre des huiles et des mèches qui sont interdites ou permises pendant Shabbat. Du coup, on parle des huiles et des mèches pour l'allumage des nérodes de Hanouka et on parle un peu plus des nérodes de Hanouka, quand est-ce qu'il faut les allumer, où les allumer, combien ça doit durer de temps, etc. Mais auparavant, il y a une petite introduction qui raconte que voilà, les Grecs avaient fait ce qu'ils ont fait, etc. Il y a eu la guerre. Et c'est dans ce cadre-là que le Rambam va reprendre ce texte quasiment et il va y ajouter ce que je viens de vous dire. Mais la Gemara, elle dit une chose qui est très importante. Elle dit « Et ukeshe gavra malchut bet hashmonaim » ce qui veut dire littéralement « Et quand la royauté, la maison royale des hashmonaim » a été plus forte que les Grecs, etc., etc. Il n'y a que ça qui nous intéresse maintenant. C'est, dit le prix de Tzadik, il dit, je ne comprends pas. Quand ils ont fait la guerre, ils n'étaient certainement pas une famille royale. Qu'est-ce que ça veut dire? Malchut bet Hashmonaim. Ça veut dire quoi? Dire que la maison de Hashmonaim était une maison royale, c'est peut-être vrai après, c'est certainement vrai après, mais pas pendant la guerre. Chez Gavra, ça veut dire au moment où les guerriers ont gagné, ils n'étaient pas encore évidemment Malchut. Et là, c'est là que le Prit Tzadik énonce son principe. Il n'y a de victoire possible que grâce à la Mida de Malchut. Il n'y a que la Malchut qui puisse donner la victoire. Alors du coup, on se demande, mais quelle Midat Malchut avaient les Kohanim pour gagner? Et on répond, la Midat Malchut qu'ils avaient, c'est que, je vous répète, que l'essentiel du travail des Kohanim, c'est l'étude et l'enseignement. D'accord? Et donc, ce sont eux qui ont, à l'époque du Bayit Sheni, à commencer la floraison de la Torah Sheba'al Peh. Bien sûr, la Torah Sheba'al Peh a été donnée à Moshe Rabbeinu, mais durant toute tout ce temps, jusqu'au deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas grand-chose, on ne connaît pas grand-chose en tout cas. L'explosion littéralement de la Torah chez Baal Peh, elle se fait à ce moment-là. Et donc, c'est eux, les Kohanim, c'est eux qui enseignent. Donc, c'est eux qui ont ce mérite, en quelque sorte, de cette explosion de la Torah chez Baal Peh. Pourquoi ça passe par eux? C'est parce que le Shoresh, la racine de la Torah chez Baal Peh, c'est Aaron à Cohen, et qu'ils sont les descendants d'Aaron. Et qu'est-ce que ça a à voir avec la royauté de... Parce qu'on dit « Man Malche Rabbanan ». Qui sont les rois, dit la Gemara, ce sont les Rabbanan. Parce qu'effectivement, qui est-ce qui dirige le peuple à partir de ce moment-là? Eh bien, ce sont les Rabbanan. Parce que même quand il y a un roi, le roi, pour faire la guerre, la plupart du temps, il doit demander la permission des Chachamim, c'est-à-dire du Sanhedrin. Donc, vous voyez bien que qui est-ce, eux, ils sont au-dessus du roi. Les pouvoirs royaux, c'est d'aller faire la guerre, le cas échéant. Ben, ils ne peuvent pas le faire s'ils n'ont pas l'aval des Chachamim. Voilà. Donc, c'est... Maintenant, pourquoi spécifiquement... ont-ils été ceux qui se sont attaqués à Yavan, à la Grèce? Alors, en vérité, ce qu'on voit, c'est que le problème de la Torah, c'est vrai que les enseignants de la Torah, ce sont les Kohanim, mais en réalité, si on regarde un peu à la source des choses, le Hazal disent que Yaakov Avinu, il a enseigné la Torah à tous ses fils, mais il a nommé Lévi Rosh Yeshiva. Le Rosh Yeshiva, c'était Lévi. Et même que tout le monde, enfin quelques-uns ont soulevé le problème, mais il y a un passouk qui parle de l'homme que Yaakov Avinu, il a envoyé Yehuda pour installer, y compris la Yeshiva en Égypte, avant de descendre. Yehuda est le roi, c'est lui qui a installé la chose. Mais le Rosh Yeshiva, c'était Lévi. Et probablement que c'est ça qui a... Parce que sinon, il y a toujours cette question, comment se fait-il que la tribu de Lévi n'a pas été asservie en Égypte? Ils n'étaient pas esclaves, les Lévi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient Rosh Yeshiva, parce qu'ils étaient... Et donc, du coup... la Torah, les responsables de la Torah, c'est la tribu de Lévi en tant que telle. Après, ça va se concentrer sur Aaron, enfin, sur les descendants d'Aaron, c'est-à-dire une partie seulement de la tribu de Lévi, mais tous les Lévites non plus, ils n'ont pas de travail de la terre, ou, etc. Ils n'ont pas de terrain, et parce qu'ils doivent être aussi disponibles. Et donc, eux aussi vont effectivement enseigner la Torah. En vérité, les Chachamim disent qu'il y a des liens particuliers. Il y a un Chazal qui dit que la Grèce tombera aux mains des gens de la tribu de Lévi. Bon, il y a un Chazal comme ça. Et donc, d'une certaine manière, dans la guerre, on voit plutôt que c'est la tribu de Lévi en tant que tribu de Lévi qui pratique la guerre, plutôt que les Kohanim. Or, de facto, ce sont les Kohanim. Pourquoi est-ce que les Kohanim? Alors, parce que, et je crois que c'est la dernière chose qu'on avait vue, c'est que pour lutter contre Yavan, il faut savoir quelle était la force de Yavan. La force de Yavan, c'est le fait de considérer que tout ce qu'eux ne comprennent pas ou tout ce qu'eux n'ont pas chez eux, ils s'en moquent, ils considèrent que ça n'a aucune valeur. Donc, c'est des moqueurs. Et contre la moquerie, alors il faut trouver comment on répond. Qu'est-ce qui nous permet de répondre à la moquerie? Les gens qui dénigrent et qui se moquent. Au tout début du Shulchan Aruch Ohr HaChaim, le Remo, c'est comme ça que le Gaon de Vilna apprend dans le Remo, il explique que il ne faut pas se laisser impressionner par les moqueurs, il faut être as canamer, il faut l'impudence de la panthère. Ça veut dire, et donc, c'est cette mida de azout qu'il faut utiliser contre les gens qui se moquent. Donc, pour lutter contre la graisse, il faut la mida de azout. Alors, jusqu'à présent, on avait toujours pensé que la azout, cette impudence, c'est une mauvaise mida. D'accord ? C'est quand Yaakov fait les reproches d'avoir massacré Shrem à Lévi et à Shimon et Lévi, il dit à Rapam, d'accord, leur colère, il maudit tout ça, qui az, parce qu'ils ont agi avec azout. C'est-à-dire, c'est avec impudence qu'ils ont massacré toute une ville, alors que, bon, tout le monde peut comprendre qu'ils s'en prennent à ceux qui ont violé leur sœur, mais massacrer toute la ville, c'est ce que leur père leur a reproché. C'est ce qui a fait perdre, a priori, à la tribu de Lévi, la royauté. Et même si après, la tribu de Lévi, elle s'est rattrapée, parce qu'elle a utilisé la azout pour tuer tous ceux, sur l'ordre de Moshe, tuer tous ceux qui avaient participé au veau d'or, donc ils sont, de ce point de vue-là, rattrapés, et donc, ils ont à voir, la tribu de Lévi, elle a quelque chose à voir avec la royauté. Simplement, pourquoi elle ne l'a pas eu? Parce qu'au moment où ça s'est décidé, en quelque sorte, il ne s'était pas encore rattrapé avec le veau d'or. Il y avait seulement la critique de leur père concernant le massacre de Shrem. Mais après, si on avait dû décider après, comme en réalité, comme je vous l'ai dit, le roi, c'était Reuven, normalement, Yaakov lui a enlevé parce qu'il était en danger public. Alors après, il vient Shimon et Lévi, qui aurait dû être roi à la place de Reuven, puisqu'ils sont les deuxièmes dans l'ordre de succession. Mais ils ne le sont pas parce que, à cause de leur azout, justement, à cause de la mauvaise impudence qui leur a permis de massacrer les gens. Et après, c'est Yehuda, c'est comme ça qu'Yehuda est devenu le quatrième. C'était lui, dans l'ordre de succession, qui a la royauté. Mais si on avait pu introduire, tenir compte de ce que Lévi allait se requalifier, ce qui n'est pas le cas de Shimon, mais allait se requalifier, ben Lévi aurait été roi. Donc, il a à voir avec la royauté, sauf qu'elle a déjà été donnée à quelqu'un d'autre. Mais tout ça, c'est la tribu de Lévi, ce n'est pas les Kohanim. Mais enfin, les Kohanim, en tant que Léviim, à la limite, quand on dit qu'ils sont devenus rois, ce n'est pas n'importe qui est devenu roi. C'est les gens qui auraient pu être rois, mais qui ne le sont pas parce que la place est déjà occupée, en quelque sorte. Parce que Yehuda est déjà roi. Alors, il faut quelqu'un qui, comme la Grèce avait justement cette mida de la azout, la mauvaise azout, c'est-à-dire de se moquer de tout ce qui n'est pas eux-mêmes, il faut lutter contre ces moqueries avec la azout de la Kdusha, et c'est ça qui a été utilisé. Alors pourquoi les Kohanim? Alors là, il y a un Chazal qui dit que les azim, Israël, c'est Azim Shebaumot, c'est-à-dire parmi les peuples les plus impudents, ceux qui ont la chutzpah, c'est les Juifs, c'est Israël. Et parmi les Juifs, c'est les Kohanim qui sont les plus impudents, qui ont la plus grande chutzpah. Et donc c'est là qu'on voit pourquoi les Kohanim à l'intérieur de la tribu de Lévi, parce que c'est eux qui ont, si vous voulez, l'amida de Azout qui existe chez les Lévim, mais de façon exacerbée, disons, chez les Kohanim. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça. C'est considéré, c'est ce que Chazal disent, les Azim chez Béisraël, c'est les Kohanim. Donc, on a expliqué, on entend ce que les Kohanim, les Hashmonaïm ont fait, et on peut commencer à entendre ce qu'a dit Rambam, et je pense qu'il faut peut-être lire dans le Rambam, non pas Midou Melech Minakoanim au sens de... c'est pas une provocation, bien qu'il soit des Kohanim, mais justement, on a pu établir la Malchoute que grâce aux Kohanim, c'est ça que ça veut dire. Rambam ne veut pas nous dire ici, peut-être, c'est, bon, je ne sais pas ce que Rambam voulait dire, c'est ce que j'ai envie de lire dans le Rambam, d'accord, c'est que le Rambam ne vient pas dire que c'était les Kohanim, c'est pas ça, on le sait. Il vient dire que c'est Mina Kohanim qu'on a pu être Mahamid le Melech. C'est grâce à la Mida de Hazout des Kohanim qui a fait que c'est eux parmi la tribu de Lévi qui est la tribu qui est capable de vaincre Yavan. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont la Mida de Malchut donc à ce moment-là. Pourquoi? Parce que la Malchut de ce moment-là, c'est Man Malché Rabbanan, c'est-à-dire c'est la Torah chez Baalpé. C'est le grâce à la Torah chez Baalpé. Et le Netziv de Vologin, dans Amekdavar, il dit un peu plus, il dit qu'en réalité, c'est le miracle de la fiole qui a, disons, provoqué l'explosion de la Torah chez Baal Peh. On peut essayer de comprendre un peu les choses de cette manière-là, de la manière suivante, pardon. Vous vous souvenez, au moment de l'inauguration du Mishkan, les princes des différentes tribus ont apporté des cadeaux. Ils ont apporté toutes sortes de tous les korbanot qu'on peut imaginer, tout ce qu'on va apporter comme don au Beth Amikdash, au Mishkan puis au Beth Amikdash, ils ont tout apporté. Et on dit que Aaron était triste parce que au titre des Kohanim, il n'a rien apporté. Au titre de la tribu, il n'a rien apporté. Et Hachem l'a consolé et lui a dit, mais ta mitzvah, toi, elle est plus grande que la leur. Et pourquoi c'est plus grand? Parce que eux, c'est vrai qu'ils ont apporté tous les korbanot qu'on peut imaginer. C'est-à-dire qu'en réalité, tous les korbanot qui vont être apportés dans toute l'histoire du Mishkan et du Mikdash, du Beth Amikdash, sont d'une certaine manière la conséquence de ce qui a été apporté à l'inauguration par les chefs de chaque tribu. C'est vrai, mais tout ça, ça va s'arrêter avec la destruction du Beth Amikdash. Par contre, alors, en quoi est-ce que la mitzvah d'Aaron, elle est plus grande? Quand il y aura destruction du Beth Amikdash, il y a destruction de la menorah aussi, donc il n'y a plus la mitzvah d'Adlakat HaMenorah non plus. Et par conséquent, quand Hachem lui dit « ta mitzvah à toi, elle sera plus grande », ça veut dire « elle va durer ». Et comment elle dure? Eh bien, elle va durer par le biais de Hanouka. Mais comment elle va durer par le biais de Hanouka? Le miracle qui a eu lieu, il a eu lieu avec la menorah. La fiole qu'on a trouvée, elle a servi à illuminer la menorah. C'est clair. Donc, le miracle, il a eu lieu avec la menorah. Et l'année d'après, quand ils ont décidé de faire quelque chose pour publier le miracle, il y a une halakha qu'on doit, quand il arrive un miracle, il y a une mitzvah de publier le miracle, de faire connaître le miracle. Donc ils ont décidé qu'on allait faire connaître le miracle. Et comment? Eh bien, on a décidé qu'on allait allumer une lumière pendant 8 jours de Hanouka, pendant les 8 jours qui correspondent aux 8 jours où la fiole a brûlé dans le Beth Amikdash, on va allumer une lumière. Cette démarche-là, c'est une démarche des Chachamim. Et on a introduit, si vous voulez, une mitzvah qui est une mitzvah des Rabbanan, une mitzvah inventée par les Chachamim, avec un développement de Torah chez Baal Peh qui concerne cette mitzvah que les Chachamim ont inventée. Donc, s'il y a quelque chose qui était un événement qui tenait à cœur au Israël, puisqu'ils ont retrouvé l'indépendance, etc. Et donc, quand les Chachamim ont donné corps à cette mitzvah, qui est donc une mitzvah des Rabbanan, elle a donné lieu à l'élaboration des halachot, dont je vous ai dit qu'on en parlait dans le deuxième, dans le perek de Bamé Malikin, de Shabbat, qui concerne les huiles et les mèches. Mais aussi, il se passe avec cette mitzvah-là quelque chose qui ne se passe avec aucune autre mitzvah, y compris la mitzvah de la Torah. C'est que, comme je vous l'ai dit, en vérité, la mitzvah, c'est d'allumer chaque jour de Hanouka une lumière. Mais je crois que personne dans le clan d'Israël, peut-être même dans l'histoire du clan d'Israël, ne considère qu'à Hanouka, on allume une lumière tous les soirs. C'est sûr que, halakhiquement, si quelqu'un est coincé ou autre, en allumant une lumière tous les soirs, il a fait parfaitement la mitzvah. Mais sur cette mitzvah, on a développé deux notions de hidour mitzvah, d'embellissement de la mitzvah. Un hidour qui consiste dans l'allumage à faire apparaître le nombre de jours de Hanouka où on se trouve. C'est-à-dire, on va allumer une lumière le premier soir, deux le deuxième, trois le troisième et huit le huitième soir. Donc, c'est un hidour mitzvah parce que dans l'allumage lui-même, on va montrer quel jour va faire apparaître les jours de Hanouka, ces huit jours où la lumière a brûlé. Et puis, on a fait un deuxième hidour mitzvah qui est que la mitzvah elle-même, c'est ce qu'on appelle ner ishubeto, c'est-à-dire une lumière par maison. Et là, on va faire apparaître le nombre de personnes qu'il y a dans la maison. Pourquoi ce hidour-là, ce n'est pas vraiment le sujet, je crois que j'en ai parlé d'autres années. En tout cas, c'est un hidour, c'est-à-dire que s'il y a cinq personnes dans la maison, on allumera cinq lumières. Et puis, il y a des gens qui ont pris les deux hidourim, d'accord, et qui allument une chanoukia par personne dans la maison. Et pour qu'on ne perde pas le nombre de jours ou le nombre de personnes, il faut que chacun allume sa chanoukia à un autre endroit dans la maison. Chacun à la porte de sa chambre, par exemple, voilà, ou à sa fenêtre. Comme ça, on a les deux hidourim. On voit apparaître le nombre de personnes et on voit aussi apparaître le nombre de jours qui sont déjà écoulés dans les huit jours de Hanouka. Mais tout ça, si vous voulez, c'est construit sur la Torah Shebaalpé, c'est-à-dire le chivouv de la mitzvah. Visiblement, cette mitzvah, elle est très chère au clan d'Israël, puisque, comme je vous l'ai dit, pratiquement tout le monde fait au moins un des hidourim. Donc, personne, il y a peut-être des gens qui ne vous croiront pas si vous dites qu'on peut allumer un air par jour de Hanouka, et ils vous diront, mais c'est pas comme ça, c'est pas, vous pouvez pas aller chez un antiquaire et dire, avec votre, un bougeoir, oui, voilà, je voudrais vendre cette Hanoukia, et vous diront, mais c'est pas une Hanoukia, c'est un bougeoir. Mais c'est une Hanoukia parce que c'est ce qui sert de bougeoir à Hanouka. Et donc, il y a eu, par amour pour cette mitzvah-là, il y a eu un amour de tout ce qui concerne cette mitzvah, donc un amour de la Torah Shebaalpé qui se développe avec cette mitzvah. En plus qu'évidemment, la menorah, elle montre la supériorité de la Chochma d'Israël. Puisque le nerf maravi, c'est lui qui rayonne sur les autres nerfs, sur les six autres, qui sont tournés vers le nerf maravi, le nerf du milieu. Et donc, c'est comme s'il leur donnait la lumière à ces autres. Les autres, c'est les sciences, etc. Donc, c'est la supériorité de cette, donc, et c'est l'élévation de la Torah, et la Torah, évidemment, c'est la Torah orale, c'est pas la Torah écrite. La Torah écrite, elle est ce qu'elle est, et, bon, elle est quelque chose d'un texte absolument extraordinaire, mais l'important, c'est justement la Torah orale, c'est-à-dire la puissance des Chachamim de décider quelque chose, de mettre un, inventer une fête, si vous voulez, d'une dimension particulière, une fête dans laquelle on va dire le Hallel tous les jours, etc., ce qui ne se fait que à Sukkot, pendant 8 jours. Donc c'est ça l'amour de la Torah Shebaal Peh, c'est l'explosion de la Torah Shebaal Peh qui coïncide avec cette mitzvah de Hadlakat HaNerot de Hanouka, parce que finalement, grâce à la décision de Chachamim, on a prolongé la mitzvah de l'allumage des Nerot de la menorah d'Aaron. C'est-à-dire la mitzvah d'Aaron est prolongée. Elle est prolongée de façon très intéressante. Elle est prolongée en ce que tout le clan d'Israël reprend le travail d'Aaron. C'est-à-dire que c'est tout le clan d'Israël qui va allumer, dans chaque maison du clan d'Israël, on va prendre sur soi la mitzvah d'Aaron. Donc d'abord, ça veut dire que ça éclate, justement, au lieu de le laisser au seul Kohanim, c'est-à-dire seulement à ceux qui étudient et enseignent et ne font rien d'autre, eh bien tout le monde est mobilisé sur le pont, tout le monde est mobilisé sur la Torah chez Baal Peh, c'est cette explosion de la Torah chez Baal Peh. Vous remarquerez d'ailleurs que cette Torah chez Baal Peh, elle s'est développée alors que les gens, comme on voit par exemple dans Pirkei Avot, ils avaient encore donné des noms grecs à leurs enfants, Antignos, Orkenos, etc. Tous des noms qui sont des noms grecs, évidemment, que les parents ont donné à leurs enfants. D'accord? Alors, à une génération, deux générations, comme on voit dans Pirkei Avot, on voit pas mal de gens qui portent des noms qui ne sont pas du tout de chez nous. Tarfon, etc., tout ça, c'est pas des noms... c'est devenu des noms de chez nous parce qu'on les a assimilés, mais c'est pas des noms de chez nous. C'est-à-dire, c'est des noms d'araméens, enfin, surtout des noms grecs. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore les parents qui étaient influencés par la culture grecque qui était dominante jusqu'au moment où les Hachmonaïm ont réagi et où ils ont gagné. Maintenant, évidemment, on peut se demander pourquoi ça n'a pas marché. D'après Rambam, pourquoi ça n'a pas marché? Alors, d'après le Rambam, on peut dire que ça n'a pas marché parce qu'il y avait un issur, une transgression. Alors, je vous ai dit, c'est vrai qu'il y a une transgression, mais ceux qui ont transgressé, ils n'étaient pas complètement étrangers à la royauté, d'une part. Et puis, on peut dire un peu différemment la chose de la manière suivante. On peut premièrement remarquer que c'est vrai que la royauté appartient à la tribu de Yehuda, mais comme vous savez, le premier roi en Israël, il n'est pas de la tribu de Yehuda. Le premier roi, c'est Shaoul, et Shaoul, il est de la tribu de Binyamin. Il est de la tribu de Yosef, quoi, enfin, du côté de Yosef, les descendants de Rachel. C'est pas Yosef, mais c'est comme Yosef. Et c'est pas du tout Yehuda. Et là-bas, on explique pourquoi est-ce que le premier roi n'était pas de la tribu de Yehuda. Parce que c'était pas mûr. Parce que dans la tribu de Yehuda, c'est-à-dire David, n'était pas mûr, il n'avait pas encore l'âge, ou il n'avait pas encore les capacités, il n'était pas encore apte à jouer le rôle de roi. C'est comme s'il y a eu un premier roi, comme dans une régence, si vous voulez, quand le roi est trop jeune pour régner, alors quelqu'un d'autre règne à sa place. Mais on n'a pas dit clairement que Shaoul régnait à la place de David, mais c'est lui qui a été nommé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore de David. Et là, on pourrait dire de la même manière, les circonstances ont fait qu'il n'y a pas de gens de la tribu de Yehuda. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui a régné, quelqu'un qui était aussi loin que possible, enfin, pardon, aussi, non, au contraire, était aussi proche que possible de la royauté, c'est-à-dire quelqu'un de la tribu de Lévi, c'est-à-dire les Kohanim, qui avait en plus l'amida de Azout, c'est-à-dire qui était fort d'avoir vaincu les Grecs, quoi. Mais malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Les rois Hachmonaïm sont redevenus grecs, quoi, quelque part. Les Grecs, puis ensuite Romains, parce que par amitié avec les Romains, etc. Et puis, on sait très bien que, malheureusement, ce sont les Juifs eux-mêmes qui ont appelé les Romains. Les Romains, ils ne sont pas venus s'occuper de nous. C'est les Juifs eux-mêmes qui ont appelé les Romains pour régler les problèmes de contestation qu'il y avait entre deux frères qui étaient tous les deux là à revendiquer la royauté. Et l'un d'entre eux a appelé les Romains à la rescousse. Et les Romains, quand ils sont venus, ben, ils ont fait ce que savent faire les Romains. Ils ont tout nettoyé. C'est-à-dire, nettoyé. Ils nous ont envoyés en galoute et ils ont détruit le Beth Amikdash. Mais pourquoi c'est arrivé? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a plusieurs pistes qu'on pourrait suivre. On pourrait suivre une piste du genre, c'est vrai qu'il a fallu la Hazout. Mais la Hazout, c'est une mida très dangereuse. Parce que dès qu'elle n'est pas parfaite, si on peut parler comme ça, dès qu'elle n'est pas vraiment au service de, uniquement, au service d'Hachem, uniquement pour lutter contre ceux qui se moquent de la Torah, immédiatement, cette azout, elle devient une azout quasi criminelle et insupportable. Et peut-être qu'effectivement, il y a eu une azout, c'est la mauvaise azout, qui, la mauvaise chutzpa qui s'est faufilée, là, qui est revenue à la surface, qui est venue à la surface, parce qu'il n'y avait plus cette mesirut nefesh de tzadikim. Parce que les premières générations étaient certainement des tzadikim gumurim qui ont été prêts à donner leur vie pour lutter pour la Torah. C'est une possibilité, soit revenue, c'est-à-dire que la hazout, en fait, soit devenue une mauvaise hazout, une hazout de celle qu'on ne peut pas récupérer, en quelque sorte, celle qui sont mauvaises, en fait, qui est mauvaise, en fait. Alors, il y a une autre façon de regarder les choses. Et de regarder Maaseh Avot Siman Labanim. C'est-à-dire, on a l'habitude de dire, voilà, ce qui se passe au niveau des Avot, c'est un signe que quelque chose d'analogue va se passer au niveau des descendants de ces Avot. Mais on peut se dire aussi que si quelque chose se passe, c'est qu'il faudrait peut-être aller chercher qu'est-ce qui s'est passé au niveau des Avot qui pourrait nous expliquer ce qui se passe maintenant. Alors, a priori, la victoire sur les Umot HaOlam, sur les autres peuples, c'est la victoire de Yaakov contre Esav. Donc, pourquoi Esav? Parce que Esav, c'est tous les peuples à la fois, bien sûr. Et donc, on peut penser que le Maaseh Avot, qui sera Siman Labanim, pour l'événement de Hanouka, c'est la guerre de Yaakov Avinu avec le Malach, qui est le Malach d'Esav. Et bien entendu, ce qu'il faut savoir, c'est que cette guerre de Yaakov contre le prince d'Esav, ça n'est pas le modèle de la guerre, effectivement, d'une guerre, mais c'est le modèle de la guerre finale, c'est la fin de l'histoire, parce que la nuit est terminée Et donc, la guerre contre Esav est terminée quand la nuit est terminée. Et donc, on parle ici de la fin de l'histoire. Mais la fin de l'histoire, c'est effectivement une lutte contre Édom, contre Esav. Mais ici, on n'est pas vraiment contre Esav, on est contre Yavan. Maintenant, il faut remarquer la chose suivante. Le Maharal explique que les trois Galouyot de Babel, Parasumadai et Yavan sont des situations dans lesquelles les Bnei Israël ont dû affronter une certaine hostilité, un certain type d'hostilité des nations. Ces trois types d'hostilité des nations. Le quatrième Galout, Edom, c'est pas une quatrième sorte d'hostilité des nations. Le quatrième Galout, c'est les trois premiers en même temps. Vous voyez, c'est la complexité. Ça devient complexe parce que même si on a su, on peut dire qu'on a résolu les problèmes de Babel, que nous posait Babel, ceux de Parasumodai et ceux de Yavan séparément, mais quand on les met ensemble, ça donne des problèmes qu'on ne sait pas résoudre, que visiblement on n'a pas encore résolu puisqu'on est encore en galoute. Et donc, la fin de l'histoire, ce sera la lutte de ces trois, contre ces trois façons de s'opposer à Israël, mais toutes ensemble, l'alliance des autres, tous ensemble. Mais ça veut dire que le dernier problème qu'on avait à résoudre séparément, c'est la guerre contre Yavan. Donc, d'une certaine manière, la guerre contre Esav est aussi un massé à vote pour la guerre contre Yavan. Parce que Yavan, d'une certaine façon, c'est la dernière guerre. Ce n'est pas la toute dernière parce que la toute dernière, on prendra tout à la fois, mais c'est le dernier problème qu'on avait dû affronter séparément comme problème. Ça, c'était, et donc c'est en cela que l'histoire de la guerre de Yaakov avec le Sar des Sav, ça a à voir avec la Géoula finale, mais cette Géoula finale, elle est en petit la guerre contre Yavan. D'ailleurs, vous voyez bien que on ne s'est pas libéré des autres Galouyot en faisant la guerre. On n'a pas fait la guerre contre Paras et Modaï, c'est au contraire eux qui nous ont octroyé le droit de rentrer en Eretz Israël, de reconstruire le deuxième Beth Amidrash. Tandis que contre Yavan, on a fait vraiment la guerre. Donc il y avait vraiment quelque chose qui est du même ordre que la guerre ultime contre Edom et que la guerre de Yaakov contre le prince d'Esav. Donc il y a dans la guerre contre Yavan, quelque chose de l'ordre de la fin des temps, en quelque sorte. La Géoula finale, ce sera une Géoula de la pleine lumière. Il y a toutes sortes d'images prophétiques qui disent comment tout va être beaucoup plus lumineux, en quelque sorte. Les plus petites lumières sont les soleils, si on peut parler comme ça. La notion de lumière dans la Torah, elle apparaît après Khoshech. Dans Maaseh Bereshit, Khoshech al pnei tehom, il y a Khoshech sur la face de l'abîme, et puis ensuite, c'est marqué « Vahi or ». Hachem donne l'ordre de la lumière. Donc la lumière est toujours conséquence, elle suit toujours le Khosher. Or, Khosher dans Maaseh Bereshit, c'est marqué « Khosher, ça représente Yavan ». Pour nous, Yavan, c'est Khosher parce que par leur xérote, ils nous ont complètement obscurci notre vue, on n'y voyait plus rien, on ne voyait plus du tout la Torah, quelque part. C'était ça leur but. Ils voulaient faire oublier complètement la Torah. Ce n'est pas simplement qu'ils voulaient nous empêcher de pratiquer la Torah. Ils voulaient faire oublier les idées même de la Torah. Faire en sorte qu'on arrive à une shikrat à Torah, un oubli complet de la Torah, de toutes les valeurs de la Torah. Donc, à la fin de Malchut Yavan, qui représente la fin du Rocher, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la Geoula finale, même ordre, Tidlavo. Donc, ça correspondra à Ruach Elokim Rachefet al Pnei Amaim. On dit ça, c'est Ruach Shel Mashiach, c'est l'esprit du Mashiach. Immédiatement après, Yomer Elokim Yoyor. Donc, avant la Geoula, il y a ce qu'on appelle Hester Panim. Les ténèbres, c'est Akadosh Baruch Hu détourne son visage. Et dans le Hester Panim, justement, ce Hester Panim-là, dans le Passouk, c'est écrit Vanochi, et moi, c'est Hachem qui parle, Haster Astir Panay Mehem, et moi, je cacherai mon visage d'eux, etc. Pourquoi? Kipana el Elohim Acheri. Parce qu'ils se sont tournés vers d'autres dieux. Qu'est-ce que veut dire Pana el Elohim Acheri? Ce n'est pas la Avodazara, spécifiquement, parce que à la fin des temps, on est déjà après la Shrita du Yesserara de l'Avodazara, mais la Kavana, c'est le fait de faire confiance aux forces de la nature. Et dans les forces de la nature, il y a de faire alliance avec tel ou tel peuple, c'est-à-dire de fonctionner naturellement sans référence à Hachem. Et donc, Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la Geoula? À ce moment-là, il s'avérera combien ces forces-là sont elles-mêmes complètement soumises à Hachem. On a voulu faire comme si ces forces-là étaient autonomes. Dans la Geoula, on verra qu'elles ne le sont pas du tout. Mais quand ça se passera seulement quand on aura cessé de s'adresser à d'autres dieux. Et donc, il s'agit d'arriver à une rencontre, à un face-à-face avec Akadosh Baruch Hu, si on peut parler comme ça. Et c'est bien ce qui s'est passé, c'est que, dans la parasha de cette semaine, c'est que Yaakov Avinu, après avoir lutté contre l'ange, alors il a dit, Vaikra, Shem Hamakom, il a nommé cet endroit-là Peniel, et il dit pourquoi? Parce que Kiraiti Elokim Panim El Panim. Parce que j'ai rencontré Elokim face à face. Ça veut dire, il a goûté Yaakov Avinu à ce moment-là, goûter à quelque chose de la Geoula finale. Le face-à-face avec Elohim, ça n'existe pas, sauf à la fin de l'histoire, complètement à la fin de l'histoire. Et Yaakov y a goûté un petit peu dans cette lutte, comme il dit lui-même, « Raiti Elohim, panim el panim ». Et dans la Malchut Yavan, quand on s'est confronté à la Malchut Yavan, qui avait... Cette Malchut Yavan qui avait pris l'état de décret contre la Torah et qui voulait évidemment imposé leur chokhma, c'est-à-dire la chokhma de la nature, les lois, la sagesse de la nature. Ils voulaient montrer que cette sagesse de la nature est plus importante, plus grande que la sagesse de la Torah. Les lois de la nature, elles fonctionnent, elles disent que tout se déroule dans des limites bien précises, avec les forces immanentes, les forces qui sont dans ce monde, et évidemment, ça nie toute intervention d'en haut, et la victoire des Hashmonaïm, c'était justement, ça s'est fait avec Messirut Nefesh, évidemment, pour lutter contre ces xérotes-là, on a montré qu'il y avait un guilouï, un dévoilement du type Geoula, parce qu'Hachem est intervenu dans l'histoire. Comment il est intervenu? Ben, de façon pas visible dans la guerre, parce qu'il y a eu une guerre. Bon, alors maintenant que ce soit la minorité qui ait battu la majorité, etc., c'est bien sûr, c'est de l'ordre du miracle, mais c'est un miracle. On pourrait dire, bon, c'était les super stratèges, etc. On n'est pas obligé de reconnaître qu'il y a l'intervention. Mais qu'est-ce que les Chachamim ont compris? Ils ont compris qu'il fallait faire comprendre au Bnei Israël, à toutes les générations, faire comprendre qu'il y a eu une intervention divine. Alors, nous, on n'a pas l'habitude de faire une fête pour une guerre. Il n'y a pas chez nous, il ne va pas y avoir une fête parce qu'on a gagné la guerre, mais on a fait une fête pour le miracle de la fiole d'huile. Donc, la fiole d'huile a permis de faire entrer la notion de miracle à Hanouka. Alors que le Maharal dit, c'est sûr que Hanouka, en vérité, ça a été instauré parce qu'il y a eu ce nes de la victoire militaire. C'était ça l'important, c'est ce que Rambam dit à la fin. L'extraordinaire, c'est qu'on a pu rétablir une autonomie de l'autorité de la Torah. L'autorité des Juifs, c'était l'autorité des Kohanim, l'autorité de la Torah, comme on l'a dit, Man Malchei Rabbanan. Et le Nes de la Menorah, c'est pour montrer que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait les Nissim pour nous. Et qu'il ne faut surtout pas s'imaginer qu'on a gagné grâce à notre stratégie ou parce que Yehuda Maccabi, etc., ils ont sorti ça, Yehuda Maccabi, on a fait des Maccabiades, on a pris Yehuda Maccabi pour faire des trucs grecs, quoi, de l'Olympiade. Il a quoi de se retourner dans sa tombe, ce pauvre Yehuda Maccabi. Yehuda qui était le fils donc du Kohen Gadol, l'antithia au Kohen Gadol. Le problème, évidemment, c'est que pourquoi est-ce qu'on avait besoin de ça pour les tzadikim, parce qu'au moment où on a déclaré ça, qui était là? Ben, les tzadikim, les Hashmonaim, c'est les tzadikim, c'est pas les Hashmonaim, les descendants des Hashmonaim qui sont complètement grecs. On dit Kohanecha Akdoshim, on dit dans la Katanerot. Est-ce qu'on les soupçonne de s'imaginer que c'est eux qui ont gagné sans que l'intervention d'Hachem? Ça n'a pas de sens. C'est sûr que eux savaient pertinemment que c'est l'intervention d'Hachem. C'est à cause de beaucoup qu'il leur a permis de gagner. Mais le dévoilement, là, il était parce que c'est dans le cours de la guerre qu'ils ont gagné. Alors, dans le cours de la guerre, naturellement, on a du mal à faire apparaître l'intervention divine, quand on a l'impression que ben ouais, on a gagné la guerre, on a trouvé les moyens de tuer l'ennemi, etc. Mais en fait, il faut comprendre que tout ça, ça relève d'un pasouk. Il y a un pasouk qui dit « Anochi yadati et amarchavot ». Hachem dit « Moi, je connais bien les pensées ». C'est-à-dire la victoire ici de Hashmonaïm. Elle relève d'un processus intérieur où Akadosh Baruch Hu fait avancer les choses dans le sens de faire apparaître une geoula dans le monde. Pas simplement une victoire militaire, mais une libération. Comme Chazal disent, Akadosh Baruch Hu, il était au sec dans la création de la lumière du Mashiach, alors que chacun des intervenants sont en train de s'occuper chacun de son petit problème. Chacun est asouk bechelo, comme dit Chazal, s'occupe avec son problème à lui, et pendant ce temps-là, Akadosh Baruch Hu s'occupe de faire advenir la lumière du Mashiach. Donc, il y avait une marshava dans la marshava, une pensée à l'intérieur de la pensée, en fait. Quelque chose, bon, bien sûr, c'est surnaturel, au-dessus des forces de la nature, mais il se passe encore quelque chose de bien particulier. C'est ce cheminement vers la geoula finale. Il faut peut-être ajouter la chose suivante. C'est l'enseignement qui vient du Parah d'Yitzhak. Concernant les Nissim, concernant les miracles dans le monde. C'est-à-dire que de la même manière que un miracle se passe en réalité dans le monde naturel. Il y a ce miracle, voilà, il y a une fiole d'huile qui brûle plus qu'il ne faut. Alors, il faut savoir qu'il se passe un S analogue dans l'esprit de l'homme qui a le mérite de voir le miracle. C'est-à-dire, le date, le discernement, l'intelligence naturelle de l'homme ne peut pas comprendre la réalité d'un miracle. C'est incompréhensible, c'est la définition du miracle. Puisque le nes, par définition, c'est le contraire de la... C'est quelque chose qui ne se plie pas aux lois de la nature, justement. Or, le date de l'homme, il est dans ce monde-ci, il est dans le monde de la nature. Et donc, il ne peut pas comprendre quelque chose qui est de l'ordre du miracle. De la même manière que dans le monde, il se passe un nes, de la même manière, le nes, il va... Et donc, il change le monde. Ce nes, il change le monde pour un moment, et peut-être aussi définitivement, puisque maintenant, il y a eu ce nes dans le monde. C'est-à-dire, il y a eu un nes à Hanouka, et maintenant, disons, on pourrait dire la temporalité des Bnei Israël, elle est changée dans le monde. On a, en Kislev, on a Hanouka pendant 8 jours. On va prier différemment, on va dire le Hallel, tous les jours, pendant 8 jours, etc. Et ça forme aussi le discernement de l'homme qui assiste au miracle. Là aussi, il y a quelque chose il y a quelque chose de l'ordre du miracle pour que on puisse saisir le miracle, voir le nes de la menorah, c'est voir quelque chose qui est de l'ordre du Maaseh Bereshit d'une certaine manière. Le dévoilement de la lumière, c'est Vayomer Elohim Yehi Or. Et ça, ça vient après voir Elohim Rachefet al Pnei Hamayim, c'est-à-dire le roi du Mashiach. Et si de voir le Nes ici, c'est comprendre qu'il y a quelque chose qui se change, quelque chose qui se renouvelle dans le monde, ce renouveau du monde, c'est-à-dire que quelque chose de la Geoula commence à exister dans le monde, et donc dans ce nouveau monde, c'est un nouveau monde, donc il est gouverné autrement, puisqu'il est le monde lui-même a changé.
Oui. Alors, le cours d'Alain Lévy.
Pardon ? Et à ce moment-là, ce nef, qui a sa racine et sa source dans l'idée même, au niveau du renouvellement du monde qui va avoir lieu à la fin des temps, c'est dans le monde où Amar Vayehi, où Hachem parle, il dit et les choses existent. Là-bas, dans ce monde-là, il n'y a pas de passé. Tout est toujours présent. Donc, ça touche effectivement à l'intériorité de la neshama de l'homme, où c'est toujours... au niveau de la neshama de l'homme, c'est toujours hayom. Vous savez, très souvent, dans le texte de la Torah, on trouve Asher Anochim et Tzavcha Hayom, que je t'ordonne aujourd'hui. Chazal disent, qu'est-ce que ça veut dire Hayom? Chazal disent, Shebechol Yom Yu Benecha Kechadashim. C'est-à-dire, ces paroles que je t'ordonne, tous les jours, elles doivent être comme si tu venais de les entendre. Comme si je te les ai données aujourd'hui. Alors, ce n'est pas simplement une façon de dire tu dois t'enthousiasmer, tu dois te réjouir, etc. Mais ça veut dire que dans le nefesh de l'homme, dans l'âme de l'homme, il y a une situation de présent permanent. C'est toujours ayom. Dans le nefesh, dans l'âme, c'est toujours ayom, en fait. Parce que l'âme, elle fait partie, c'est un chelek elokamimal, partie de la divinité d'en haut, et là, en haut, il n'y a pas de différence entre le présent, il n'y a pas de présent, de passé, de futur. C'est toujours présent. Et donc, ce qu'on demande à l'homme, c'est de recevoir ces paroles qu'on lui donne à ce moment-là, qui arrive, le faire entrer dans sa neshama, où là-bas, elles vont être dans un monde où elles sont en permanence de l'ordre du présent. Il n'y a pas de passé. Ce n'est pas hier, j'ai entendu ça. Non, je l'entends maintenant. Donc, comme si on l'avait entendu seulement aujourd'hui. Et comme Hachem parle et les choses sont. C'est-à-dire, il n'y a pas de temps qui s'écoule, il n'y a pas de durée, il n'y a pas un temps qui pour que ça prenne, pour que ça démarre, il faudra telle ou telle chose. Non, c'est tout de suite présent, complètement. Et c'est ça le chidouch qu'il y a dans la Geoula de la guerre contre Yavan, c'est que les Bnei Israël ont eu l'occasion de voir ce sujet, donc, où Amar Vayehi, Hachem parle et les choses sont. Et pour, comment ça se fait qu'ils sont arrivés à cela? Parce que c'est par le M. Otnefesh sur la Chochma de la Torah, c'est-à-dire leur volonté de résister aux xérot de, ils voulaient faire oublier la Torah, etc., au nom de la sagesse grecque, de la, des lois de la nature, en quelque sorte, la connaissance de la nature. Ils voulaient montrer qu'il n'y a pas de chidouche dans le monde. Les lois de la nature, elles sont immuables, c'est tout le temps comme ça. Il n'y a pas de chidouche, il n'y a pas de renouvellement. Donc, on ne peut jamais rien révéler d'autre que ce qui est, qui a toujours existé dans le monde. Mais en vérité, il y a une force au-dessus de toutes les forces qui est la volonté supérieure, volonté d'Hachem, qui fait que toute chose existe. La Chokhma de la Torah, elle nous amène à comprendre cet état des choses, et c'est pour cela que les Hashmonaïm se sont sacrifiés, en quelque sorte. Donc, Mida Keneged Mida, ils ont accédé à la, cette vision, à la compréhension de, cette, de ce moment premier dans l'histoire du monde qui est la lumière. Donc, le miracle de la lumière qui s'est déroulé dans le Beth Amikdash avec cette lumière-là, elle n'obéit pas aux lois de la nature. En fait. C'est une lumière qui n'a pas besoin de consommer son combustible, en quelque sorte. C'est ça l'idée, c'est que le Rambam dit que il s'agit avec la mitzvah de Hadlakat Nerot, les galot ou les harot anes. Il faut dévoiler, et montrer le nes. Pirsum anes, c'est-à-dire. C'est-à-dire dans cette demi-heure où les Nerot de Hanouka vont brûler, il faut comprendre ici que quelque chose doit rayonner de cette lumière et nous affecter, nous qui regardons cette lumière, et nous faire entrer en relation avec ces choses absolument profondes, à savoir Akadosh Baruch Hu est sans cesse en train de faire vivre les choses, de faire exister les choses. Et ça, c'est ce qui donne de la force pour faire la guerre contre toutes les visions purement matérielles ou matérialistes du monde. Donc, ce qu'on a compris, ce qu'on a essayé de comprendre, c'est que la Geoula, la libération du joug grec, en fait, c'est quelque chose qui est, comme on a dit, c'est quelque chose qui a à voir avec la Malchut, cette Mida de Malchut. C'est une Geoula du type Malchut. il leur a été donné au Hashmonaïm une force extraordinaire de dominer et de rayonner, de régner en fait. Ces forces-là, donc, ils leur ont été données, bien sûr, c'est des forces extraordinaires et qui sont très dangereuses parce qu'on peut les utiliser autrement que comme elles doivent être utilisées. On leur a donné une force extraordinaire à ces Hashmonaïm. Dans la première lumière, effectivement, la lumière de la création, Kadosh Baruch Hu a vu que il faut, cette lumière-là, on ne peut pas la laisser à la disposition des Rechaïm. Alors, il a été gonèse l'Atid Lavo. Jusqu'à la fin des temps, elle n'est pas accessible. Jusqu'au Mashiach. La royauté de David, c'est d'être capable de gérer cela, justement. D'être à la fois Moshel ou Molech, à la fois donc tyran et roi, si on peut parler comme ça, et d'un autre côté, être capable de reconnaître que, et en cela, c'est reconnaître au sens de Yehuda, il reconnaît, c'est la notion de reconnaissance, quand Yehuda reconnaît que Tamar est enceinte de lui, c'est pas seulement dire merci, mais c'est l'autre sens du mot reconnaissance, en hébreu aussi, Oda. Cette force qui leur permet de régner, il faut en même temps être capable de dire, comme David HaMelech, « Avanochi tolat v'loish »« Je suis un vermisseau et pas un homme »« Rechpat adam ou bazouiam » »« La honte de l'homme et celle du peuple » C'est-à-dire une force de reconnaissance et de s'écraser devant Hachem. C'est cette lumière-là qui est mise de côté pour jusqu'à la fin des temps. Et dans le Nes de Hanouka, Akadosh Baruch Hu a bien voulu nous en donner un peu, en quelque sorte. Mais comme on a dit, c'était tellement dangereux que finalement ça n'a pas marché. Il nous l'a donné. Mais on n'a pas été capable, à terme, de le gérer. C'est pour ça que ça n'a pas continué. On n'a pas su le gérer. Donc, c'est pour ça que c'est étonnant quand même cette formulation. Il y a eu pendant 200 ans la royauté d'Israël. Jusqu'au Korban. Le Rambam, il n'a pas dit assez ou il en a trop dit, je ne sais pas. Il s'agit de montrer le Nes. C'est ça qui est important, dit Rambam. Montrer la puissance de la Torah Shebalpé, en fait. C'est-à-dire que si on regarde la menorah, alors on prend conscience en fait de toutes ces forces qui sont à l'œuvre. Et comme Yaakov Avinu quand il a gagné contre le Malach, mais vous voyez, Yaakov Avinu lui-même, il a été blessé. Il a gagné contre le malheur. Mais il ne s'en est pas tiré sans une. Dans cette boiterie-là. certains disent que la raison pour laquelle l'ange a pu toucher Yaakov Avinu, c'est parce que l'ange lui a dit, voilà, c'est la guerre, elle est terminée. J'ai fini mon service. L'aube vient, là, le soleil se lève. C'est terminé, il faut arrêter la guerre. Et donc, laisse-moi partir. C'est fini la guerre. Et Yaakov a dit, non, je ne te laisse pas partir. Je veux une bracha, etc. Et là, donc, Yaakov a continué la guerre, d'une certaine manière. C'est à ce moment-là que l'ange a pu le toucher, à ce moment-là qu'il a pu le blesser. Parce que Yaakov, en fait, il a, je veux dire, abusé, en quelque sorte, du temps de la guerre. Il y avait un temps de guerre pendant lequel tu devais te défendre et tu as bien résisté, c'est très bien. Mais ça va, c'est terminé maintenant. Il ne t'agresse plus parce que il avait sa fonction, c'était de t'agresser pendant la nuit, pendant le galout. Et maintenant que la lumière est arrivée, il n'a plus de raison, il doit maintenant aller chanter les louanges d'Hachem. C'est ce qu'il te dit. Alors laisse-le partir. Il n'a pas laissé partir tout de suite. Et ça lui a coûté. Il l'a blessé. C'est pour ça qu'on était metaken à Hanouka, une hoda'a spéciale. Hazal ont tiknou ve kavu shmonat yemei Hanouka el ou le hodot ou le halel. La Torah qui a été donnée aux Chachamim à ce moment-là, c'est ça la force qui nous a été donnée pour diriger le clan Israël. Mais il faut être en même temps conscient de ce que ça nous est donné. Ça a été donné. Donc il faut ne pas oublier de se tourner vers celui qui a donné et d'être reconnaissant, d'exprimer sa reconnaissance. Quand on dit Pinouet, ils ont débarrassé tout le Echal, ils ont purifié le Betamigdash. Évidemment qu'ils ont éliminé toute la Avodazara, toutes les impuretés. Mais il fallait aussi, débarrasser et purifier de toutes les sortes de rechaïm qui pourraient être tentés d'utiliser cette grande lumière et de l'utiliser à mauvais escient. C'est-à-dire utiliser les paroles de Torah pour l'hérésie, pour l'utiliser contre Hachem. Et donc, c'est ce qu'ont fait les Bnei Israël. Ils ont mis le garde-fou, c'est Hanouka. On va bien marquer le coup que c'est un miracle d'Hachem, que c'est Hachem qui l'a donné. La Torah, au moment de l'explosion de la Torah chez Balpé, ça peut être très dangereux. Il faut rappeler que c'est fondé en réalité sur le miracle. C'est Hachem qui nous l'a donné. Hachem qui nous a donné cette possibilité, qui nous donne en permanence cette possibilité, parce qu'il n'y a pas de « il a donné, il donne ». Il donne en permanence cette possibilité d'avoir accès à la Torah chez Baal Peh, c'est-à-dire à la vraie lumière, puisque Chazal dit par ailleurs que la lumière en question, la lumière qui a été mise de côté, elle est dans la Torah chez Baal Peh. Voilà ce que je voulais ajouter, ce qu'on a dit la dernière fois sur… sur l'après Hanouka. Qu'est-ce qui s'est passé après ?